Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin, livre 5, chapitre 3. Un nouveau réformateur et un iconoclaste, 1531. Pierre Viré va à Paris, converti il revient à Orbe, ses luttes, conversion de ses parents, Farel et Viré. Viré prêche à Orbe, le Saint-Pierre, le Saint-Paul, le Saint-Jean de la Suisse, conversion d'Élisabeth d'Arnex, conversion d'un prêtre, la Sainte-Seine à Orbe, toutes les images abattues, les prêtres arrêtés, les prêtres libérés, les iconoclastes emprisonnés. Un bourgeois d'Orbe, nommé Guillaume Viré, tondeur de draps et couturier, avait eu en l'an 1511 un fils qu'il avait nommé Pierre. L'enfant avait grandi au milieu des lainiers et avait vu sans y prendre goût les ouvriers de son père pressés, qu'attirent, fouler les draps sortis des mains des tisseurs. Il n'était pas fait pour être industriel. C'était l'homme intérieur qui devait se développer dans cet enfant. Il y avait en lui un besoin de trouver Dieu qui le poussait vers le ciel. Il recherchait la société des bourgeois les plus instruits, il avait même quelques rapports avec les nobles, mais ce qu'il voulait avant tout, c'était Dieu. S'il se promenait seul ou avec l'un de ses frères, Antoine et Jean, sur les rives pittoresques de l'Orbe, dans les contrées délicieuses que baignent ses eaux et jusqu'au pied du Jura, il regardait autour de lui avec délice, mais il levait ensuite les yeux en haut. « De ma nature, dit-il, j'étais adonné à religion, laquelle toutefois j'ignorais alors. « Je me préparais pour le ciel, dit-il encore, voyant que c'était la droite voie du salut. » Il résolut de se consacrer au service des autels. Son père ne s'y opposa pas. Les bourgeois et les paysans de cette époque regardaient comme un honneur d'avoir un prêtre parmi leurs fils. Pierre, doué de beaucoup d'intelligence et de mémoire, eut bientôt appris tout ce qu'on enseignait dans les écoles d'Orbe, et il tourna ses regards vers l'Université de Paris, cette grande lumière qui, 12 ans auparavant, avait attiré les regards et les pas de Farel. Son père, que son commerce avait mis à son aise, consentit en y envoyer et le garçon s'y rendit l'an 1523, ayant alors un peu plus de 12 ans. La même année, au même moment, arrivé dans cette capitale et entré au collège de la Marche, Jean Calvin de Noyon, plus âgé que Viré de 2 ans. Ces deux garçons, qui devaient être un jour étroitement unis, se rencontrèrent-ils alors et leur amitié date-t-elle de leur enfance? Nous n'avons pas pu nous en assurer. Viré se distingua au collège par son amour de l'étude. Il profita fort bien aux lettres, mais aussi par son dévouement aux pratiques de l'Église romaine. « Je ne puis pourtant pas nier, dit-il, que je n'ai été assez profond en cette Babylone. » Farel, dans l'un des derniers séjours qu'il fit à Paris, paraît avoir remarqué Viré, dont l'aimable modestie gagnait facilement les cœurs, et l'avoir aidé à se tirer des ténèbres où le jeune Suisse se trouvait encore. L'Évangile pénétra dans l'âme de l'écolier d'Orbe, presque au même instant où il éclairait la grande intelligence de l'écolier de Noyon. La douceur de son caractère modéra les luttes qui avaient été si vives pour Farel et pour Calvin. Toutefois, lui aussi passa par le chemin de l'angoisse pour arriver à la paix. Apercevant au-dessous de lui un affreux abîme et une nuit éternelle, il se jeta dans les bras du libérateur qui l'appelait. « Étant encore aux écoles, dit-il, Dieu m'a retiré de ce labyrinthe d'erreurs avant que j'aie été plongé plus profond en cette Babylone de l'Antichrist. » Le moment étant arrivé où l'on devait lui donner la tonsure, il sentit qu'il fallait se décider. Le combat ne fut pas long. Il la refusa. Aussitôt, il fut noté de tenir la religion luthérienne. Comprenant ce qu'il attendait, il quitta précipitamment Paris et la France et revint en la maison de son père. Et plus tard, il s'écriait « Je rends grâce à Dieu que le caractère et le signe de la bête n'aient pas été imprimés sur mon front. » Viré trouva Orbe bien changé. Les combats que se livraient alors l'Évangile et la papauté l'intimidèrent au premier abord. Il était de ces âmes recueillies, absorbées par les luttes du dedans qui se retirent volontiers de celles du dehors. Il avait, comme les autres réformateurs, de la peine à sortir du corps de la catholicité, mais une conscience sévère le portait à rechercher à tout prix la vérité. Quelquefois, Rome, son église, ses abus, ses erreurs frappaient seuls son imagination et il s'écriait tout ému « C'est la citadelle de la superstition, c'est la forteresse de Satan ». Puis, tout à coup, et sans qu'il eût le temps de s'en défendre, l'ancien système du catholicisme reprenait en lui sa puissance et il se trouvait dans l'angoisse et dans les ténèbres. Il luttait, il priait. La vérité, un instant voilée, reparaissait à ses yeux et il se disait « Rome prétend que c'est l'Antiquité qui est la vérité, mais qu'y a-t-il de plus ancien au monde que mensonge, rébellion, homicide, extorsion, paillardise, idolâtrie et toute méchanceté et abomination ? Suivre la doctrine de Caïn et de Sodome, c'est suivre certes une doctrine fort ancienne, mais ô vérité, ô vertu, ô sainteté, ô innocence, ô toi, Dieu qui a né le Père, vous êtes plus ancien encore. » Les prêtres d'Orbe, fort dévoués à la doctrine romaine, voyant le fils du tondeur souvent solitaire et soucieux, commencèrent à s'inquiéter à son sujet, l'abordèrent, lui parlèrent des anciens docteurs, des témoignages des saints, de saint Augustin, de saint Cyprien, de saint Chrysostome, de saint Jérôme. Ces témoignages avaient beaucoup de poids dans l'esprit de Viré. Sa tête tournait, son pied glissait, et il était sur le point de retomber dans l'abîme. Mais, saisissant de nouveau la parole de Dieu, il s'y cramponnait et disait « Non, je ne veux pas croire à cause de Tertullien ou de Cyprien ou de Chrysostome, de Pierre Lombard ou de Thomas d'Aquin, pas même d'Érasme ou de Luther. Si je le faisais, je serais disciple des hommes. Je ne veux croire que Jésus-Christ, mon pasteur. » Enfin, la parole divine délivra Viré de la domination théocratique de Rome. Il se mit alors à regarder tout autour de lui. Hélas, que voyait-il ? Partout des chaînes, des prisonniers retenus dans la citadelle d'idolâtrie. Il éprouvait l'affection la plus tendre pour ses captifs. « Depuis que le Seigneur m'en a mis dehors, disait-il, je ne puis oublier ceux qui sont dedans. » Il y avait deux de ces prisonniers qui ne sortaient jamais de sa pensée, son père et sa mère. Tantôt absorbés par leur laine et leur foulon, tantôt prenant part machinalement aux offices, ils ne recherchaient pas la seule chose nécessaire. Le fils pieux se mit à prier ardemment pour ses parents, à redoubler à leur égard de respect, à leur lire quelques passages de la Sainte Écriture, à leur parler doucement du Sauveur. Le père et la mère se sentirent attirés par la conduite de leur fils et la foi qu'ils professaient prit possession de leur cœur. Viré, reconnaissant, put dire « J'ai grande occasion de rendre grâce à ce bon Dieu de ce qu'il lui a plu de se servir de moi pour amener mon père et ma mère à la connaissance du Fils de Dieu. Ah, quand il n'aurait point fait servir mon ministère à autre chose, j'aurais bien occasion de le bénir. » Dès que Farel et Viré se trouvèrent ensemble à Orbe, le second fut aussitôt l'un des auditeurs du premier, et bientôt il mena avec lui son père. L'union la plus intime s'établit entre les deux hommes de Dieu. L'un complétait l'autre. Si Farel était ardent, intrépide, presque téméraire, Viré était d'un naturel merveilleusement débonnaire. Il avait en lui une grâce qui gagnait les cœurs, une sensibilité chrétienne vraiment touchante. Et pourtant, comme Farel, comme Calvin, il était ferme dans la doctrine et la morale. Farel, toujours empressé à envoyer des ouvriers dans la moisson, engagea son ami à prêcher non seulement dans les campagnes, mais à Orbe même. Jeune et timide, Viré recula devant la charge que Farel lui proposait, mais le réformateur le pressa, comme d'autres avaient pressé Luther et Calvin. Il pensait que Viré, étant de la ville même, aimé de tous, trouverait un accueil plus favorable. La pensée de la grâce divine, dont il connaissait la force, décida Viré. « Que ce ne soit pas ma bouche qui persuade, disait-il, mais la bouche de Jésus-Christ, car c'est Jésus-Christ qui transperce les cœurs par les flèches du feu de son esprit. » Le 6 mai 1531, une foule inaccoutumée venue non seulement de la ville mais des environs se pressait dans Orbe. Le fils d'un des bourgeois les plus considérés, un enfant de l'endroit, devait monter en chaire. On l'accusait bien un peu d'hérésie, mais il était si inoffensif que personne n'y voulait croire, et d'ailleurs plusieurs des jeunes gens d'Orbe qui avaient joué avec lui sur les bords de la rivière voulaient voir en chair le compagnon de leurs ébats. L'assemblée, qui attendait avec impatience, vit paraître enfin un jeune homme de petite taille, de complexion faible, la figure fine et allongée, le regard vif, l'expression douce et insinuante. Âgé de 20 ans, il paraissait en avoir moins encore. Il prêcha. Sa parole était accompagnée de tant d'onction et de savoir. Son langage était si persuasif, son éloquence si intime et si pénétrante que les hommes, même les plus mondains, furent attirés par son discours et comme suspendus à ses lèvres. Le proverbe « Nul n'est prophète en son pays » ne se réalisa pas pour Viré. Le 6 mai fut pour lui un grand jour. Il garda toute sa vie le souvenir de ses premières prédications. « Votre église, disait-il 30 ans plus tard aux nobles et bourgeois de la ville d'Orbe, a été la première en laquelle Dieu, dès ma jeunesse, et quand elle était encore elle-même au temps de sa naissance, a voulu se servir de mon ministère. » Dès lors, Viré prit place dans cette noble bande des héros de la parole que le Seigneur levait parmi les peuples. Son rôle y fut modeste, mais bien marqué. Le collège des réformateurs, ainsi que celui des apôtres, renfermait les caractères les plus divers. Comme la sève est partout la même dans la nature, l'Esprit de Dieu est partout le même dans l'Église, mais partout aussi l'un et l'autre produisent des fleurs variées et des fruits différents. L'ardent Farel fut le Saint-Pierre de la Réforme, le puissant Calvin en fut le Saint-Paul, et le doux Viré, le Saint-Jean. Farel, Viré, Romain, Hollard et les autres évangéliques attendaient les effets de la prédication dans Orbe. Ils voyaient bien quelques légères pointes et piqûres, mais il y en avait peu qui fussent navrés et percés jusqu'au fond et tellement accablés du sentiment de la mort éternelle qu'ils ne pensassent à chercher leur secours que dans la grâce de Jésus-Christ. Tout à coup, un mois seulement après l'arrivée de Farel, le bruit d'une conversion inattendue remplit Orbe d'étonnement et devint l'objet de toutes les conversations. On disait, et à peine celui qui le racontait pouvait-il y croire, on disait que Madame Élisabeth, la femme du seigneur d'Arnex, celle qui avait ourdi la conspiration des femmes et donné de tels coups à Farel, était entièrement changée, que son mari lui-même, Hugonin, qui s'était porté caution du moine Giuliani et l'avait fait mettre en liberté, avait changé comme elle. Les dévots et les dévotes ne pouvaient nier le fait. « Vraiment, disait-il, elle est devenue une des pires luthériennes qui soient en la ville. » Plus tard, ils firent grand bruit de ce qu'à la Toussaint ou à une fête de Notre-Dame, Élisabeth faisait faire la buée, c'est-à-dire la lessive, ou autre travail mécanique. Il branlait la tête, il levait les épaules, il riait. Les évangéliques ne faisaient pas de même. Ils pensaient, selon l'expression d'un de leurs chefs, que ces gens à cœur de fer riaient, mais d'un riz d'hôtelier, parce qu'ils se sentaient comme étrangers au-dedans. Ils savaient que la parole de Dieu est un marteau, qu'il n'y a rien de si dur, ni de si massif, ou si caché dans l'homme, que sa puissance n'atteigne. Paul, comme Élisabeth et Hugonin, n'avait-il pas été un persécuteur? Bientôt, il advint pire encore, au gré des catholiques. Un des ecclésiastiques de l'endroit, qui était grand musicien et qu'on avait fait chantre, Georges Griva, dit Galet, élevé par une mère fervente romaine, avait été très bien appris à l'église. Pour qu'il fût encore mieux enseigné, ses parents l'avaient envoyé à Lausanne, où il était devenu enfant de chœur et avait surtout fort profité dans la science de la musique. À son retour à Orbe, les seigneurs et les prêtres lui avaient fait la plus flatteuse réception. Il s'en était rendu digne, il ravissait le peuple par ses chants ou l'électrisait par ses discours. Mais le 10 mai 1531, le même mois où Viré fit son premier sermon, Griva étant monté en chaire, étonna tout son auditoire en prêchant de la manière la plus claire la doctrine évangélique. C'était trop. Son père et ses frères étaient dans le désespoir. Les nobles et les prêtres qu'il avait si bien reçus, dans la plus grande irritation. « Ne lui a-t-on pas donné de bons gages, disait-on. L'Église ne l'a-t-elle pas nourri, endoctriné, et il veut ressembler au coucou qui mange la mère qu'il a élevée. » Ces conversions successives donnant aux évangéliques plus de courage, ils firent un pas important. Ils sentaient le besoin d'être affermis dans la foi par la célébration de la scène. Ils la demandèrent, et Farel, qui était alors à Morat, revint aussitôt à Orbe. Le jour de Pentecôte, 28 mai, à 6h du matin, heure qu'on avait choisie pour assurer la tranquillité de l'acte qu'on allait accomplir, il annonça à une assemblée nombreuse réunie dans l'église même la rémission de tous les péchés par la rupture du corps de Christ sur la croix. Et la prédication finie, 8 disciples se présentèrent pour rompre le pain. C'était Hugonin d'Arnex et son épouse, Olard et sa vieille mère, Cordé et sa femme, Guillaume Viré, père de Pierre, et Georges Grival, plus tard pasteur à Avenches. Plusieurs évangéliques ne se croyaient pas assez avancés dans la foi pour prendre part à cet acte, et Pierre Viré était sans doute absent. Deux des huit disciples étendirent modestement un linge blanc sur un banc. Ils y placèrent du pain et du vin. Farel se mit à genoux, pria et tous suivirent de cœur sa prière. Puis le ministre se releva et dit « Vous pardonnez-vous tous les uns aux autres ?» Les fidèles dirent oui. Lors, le dit Farel, rompit à chacun un morceau de pain, disant qu'il leur donnait en mémoire de la passion de Christ, et ensuite il donna la coupe. Ce ministre et ses vrais disciples possédaient par la foi la présence réelle de Jésus dans leur cœur. À peine avaient-ils fini que les prêtres, indignés, entrèrent précipitamment dans l'église et chantèrent la messe de toute leur voix. Le lendemain, lundi de Pentecôte, nouveau scandale, les fidèles travaillent. Ah, disait-on avec indignation, ils ne font nulle fête hors le dimanche. Si l'évangélisation avait continué dans une voie paisible d'édification chrétienne, sans doute la ville eût été bientôt entièrement gagnée, mais la Réformation eut aussi ses enfants terribles. En vain, Calvin disait-il, ceux qui sont sages selon Dieu sont modestes, paisibles, humains, ils ne dissimulent point les vices, ils tâchent plutôt de les corriger, mais pourvu que ce soit dans la paix, c'est-à-dire avec une telle modération, que l'unité demeure en son entier. Les représentations paisibles et aimables ne doivent point être mises hors d'usage, et ceux qui veulent être médecins ne doivent pas être bourreaux. Déjà, une belle croix de pierre qui était sur le cimetière de Saint-Germain avait été abattue et une autre, élevée à une croisée de chemin près de la ville, avait été dérochée. Mais cela s'était fait de nuit, sans que l'on sût par qui. Bientôt, les ardents réformateurs s'enhardirent, en particulier Christophe Olard, vrai iconoclaste de la Réforme, qui pensait plus à abattre qu'à édifier. Un jour que Farel prêchait devant les députés de Berne et de Fribourg, Olard se jeta sur une image de la Vierge et la brisa. Un autre jour, il abattit le grand autel de l'église de Notre-Dame. Ce n'était pas assez. Selon cette âme droite, pieuse même, mais ardente, extrême et manquant un peu de jugement, la réformation, c'est-à-dire la destruction des images et des autels, n'allait pas assez vite. Olard résolut de l'accomplir en grand. Il prit avec lui 12 compagnons et la bande alla de rue en rue, de temple en temple, et ses exécuteurs des jugements de Dieu, c'est ce qu'ils pensaient être, dérochèrent tous les autels dans les 7 églises de la ville. 26 monceaux de décombres attestèrent leur triomphe. Ils pouvaient dire sans doute que tout culte rendu à une image était un reste de paganisme, mais leur faute était de prétendre que les catholiques adorassent Dieu non selon leur conscience catholique, mais selon celle des réformés. Les gens effrayés regardaient et ne disaient rien. « Vraiment, dit le sire de Pierrefleur, je me donne grande admiration en voyant la patience de ce pauvre peuple. Monsieur le Banneret, répondirent quelques catholiques, si nous ne portions grande loyauté à nos seigneurs de Berne, le corps du sieur Christophe Olard n'eût pas touché terre, c'est-à-dire qu'il l'eût pendu. Ses compagnons n'étaient guère plus doux les uns que les autres. Les catholiques mirent à la place des autels des tables sur lesquelles on chanta petitement la messe. L'intolérance de Christophe Olard et de l'un de ses amis, nommé Tavel, menaçait ainsi de substituer une tyrannie nouvelle à la tyrannie antique de la papauté. Hélas, on a vu tel clergé protestant s'opposer aux disciples et aux doctrines de l'Évangile comme le clergé romain a pu le faire. L'intolérance est un vice de la nature humaine que la piété même ne guérit pas toujours du premier coup. Les prêtres disant la messe sur leur petite table offusquaient Olard et Tavel. Agace n'était plus châtelain, il avait été déposé par l'influence de Berne. Un réformé, Antoine Secrétan, avait été mis à sa place. Les deux fougueux luthériens portèrent plainte devant lui contre tous les prêtres comme étant des meurtriers des âmes, et selon la coutume, ils se constituèrent eux-mêmes prisonniers. Le châtelain ordonna que l'on saisît les ecclésiastiques romains. Ce n'était pas très facile, car il y en avait de vigoureux. Trois sergents ayant voulu saisir dans la rue Messire Pierre Beauvais, ce prêtre, vu sa force, les traîna en une entrée de maison et là les frappa en sorte qu'ils furent tout aise de se sauver de ses mains. S'étant ainsi défendu comme un lion, il resta libre. Il n'en fut pas de même du curé Blaise Fauré qui, comme une brebis, alla droit en prison. Les officiers le mirent avec les autres, tous ensemble bien traités de vie et de couche, ayant permission d'aller partout le château. Quelques prêtres hardis, il en était resté, se mirent malgré la défense à chanter la messe à 5 heures du matin. Les catholiques s'y rendirent avec piques et hallebardes et autres bâtons. Quand on sonnait, c'était comme si le feu fût dans la ville. Les protestants intolérants reçurent bientôt une forte et juste leçon. Le grand banneret Pierre Fleur, homme du monde, versé dans les lettres, d'un esprit cultivé, d'une naïveté pleine de grâce, d'une profonde intelligence, joignait à la bonhomie vaudoise une grande décision. Catholique convaincu, sachant que la majorité des habitants étaient pour la foi romaine, indigné de voir les prêtres mis en prison et les fidèles obligés d'entendre la messe presque en cachette, il demanda un conseil général du peuple. « Voulez-vous, dit-il, avoir la messe et vivre et mourir en la sainte foi comme nos anciens pères ? Si vous avez ce bon vouloir, que chacun lève le doigt et si par fortune il y en a un de contraire, qu'il sorte de la compagnie. » Chacun leva le doigt en signe de serment. Alors, les fribourgeois envoyèrent un héros à Orbe, les prêtres furent sortis de prison et l'on y mit à leur place tous ceux qui avaient déroché les autels. Ils étaient au nombre de 15 et parmi eux était le mari d'Élisabeth, noble hugonin d'Arnex. Ils ne furent pas si bien traités de vie et de couche que l'avaient été les prêtres. On les mit au pain et à l'eau, mais après 3 jours, ils purent retourner chez eux. Pendant ce temps, les prêtres et les fervents catholiques rétablissaient partout les autels. Il fallut plus de 20 ans pour que la réforme se relevât dans Orbe, du coup que l'intolérance de Hollard et de ses amis lui avait porté. Ce ne fut qu'en 1554 qu'une assemblée du peuple décida à la majorité de 18 voix l'établissement du culte évangélique. Les prêtres, les moines et les nonnes en sortirent alors pour toujours au milieu des larmes de leurs partisans.